Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie?
Je vous en prie.
Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
Au commencement était l'action.
Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond.
Je suis Sarah Crosetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On questionne l'art et la manière dont ils habitent le monde, le remettent en question et le redessinent à leur façon. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
C'est pas les gens les plus expérimentés, les meilleurs sur le papier, qui ont les compétences, les meilleurs qui y arrivent, sincèrement, je pense. Les meilleurs entrepreneurs, c'est des gens qui souvent ont quelque chose à prouver. Et c'est pareil dans le sport, c'est exactement pareil dans le sport. C'est ceux qui vont finalement s'entraîner beaucoup plus que les autres. Je pense que quand tu te lances, quand tu te demandes si tu as les capacités à te lancer, il faut bien connaître ça. Quel est ton moteur, tu vois, intrinsèque?
Aujourd'hui, je rencontre Delphine Groll, une jeune femme fonceuse, maman de deux enfants, cofondatrice de Nabla, une entreprise basée sur l'intelligence artificielle pour révolutionner le monde de la médecine. Persuadée que le machine learning peut révolutionner le rapport médecin-patient, elle aide notamment les médecins dans leurs tâches administratives quotidiennes. Mais il y a encore quelques années, Delphine n'y connaissait rien au monde de la tech. Après des études de sciences politiques, elle commence sa carrière à l'Élysée en conseillant le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, sur les sujets relatifs au sport. Elle fait ensuite un passage par Au Féminin, au sein de la communication chez My Little Paris, et intraprend en lançant des boxes de produits Elsi, avant de se lancer pour de bon dans l'entrepreneuriat avec la création de Nabla. Avec Delphine, on discute d'introspection, de comment réussir à bien se connaître, on discute aussi de sport bien sûr, de comment surmonter ses doutes, de l'importance de l'équilibre vie pro-vie perso et de femmes inspirantes. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera autant que Delphine devant ces challenges technologiques. Belle écoute!
Bonjour, je suis Delphine, je suis cofondatrice de Nabla. J'ai la petite particularité de ma carrière, c'est que j'ai commencé ma carrière à l'Élysée, donc pas du tout dans le privé, où je conseillais le président de la République sur des sujets sport. Et après, je suis passée du coup dans le privé. Et encore une fois, la particularité de mon parcours, c'est que j'ai rejoint des groupes. Et dans ces groupes, j'ai monté des boîtes, donc en intrapreneur. Et après avoir ça, j'ai décidé de monter ma boîte, donc enfin être entrepreneur. Et donc, la boîte est Nabla. Et je suis aussi maman de deux petits-enfants, tout jeunes, 3 ans et demi, 2 ans. Donc ça aussi, ça fait partie un peu de mon quotidien. Voilà, en quelques lignes.
Ok, donc beaucoup de sujets à creuser. Avant que tu commences, donc tu parlais brièvement, tu as commencé à l'Élysée. Avant ça, tu as fait une école de commerce.
Avant ça, j'ai fait Sciences Po Aix.
Okay.
Après, j'ai préparé l'ENA à Normale Sup. Et au moment d'attendre les résultats de l'ENA, donc j'étais en pré-PENA, je me dis, bon, bah, je vais faire un stage pour m'ouvrir des portes en attendant les résultats de l'ENA. Et là, je fais un stage à l'Élysée. Donc, j'arrive à rentrer là-dedans. Quoi. Et ils me proposent un poste après mon stage et j'apprends à l'Élysée que je ne suis pas prise. Alena. Donc c'est complètement fou, en fait c'est l'échec un peu de tout mon parcours scolaire où j'avais bûché, j'étais que dans les bibliothèques, j'ai fait ça pendant un an de bûcher le concours. En fait ça m'a ouvert juste là où en fait tu veux être après 30 ans de vie politique, double énarque, etc. Enfin, moi, c'est vraiment ça, c'était un peu un pied de nez à l'histoire, j'avais loupé le concours mais j'ai commencé là où tout le monde veut finir sa carrière politique. Donc ça, c'était assez, voilà, assez bizarre. Donc moi, j'ai plutôt un background, les sciences littéraires, humaines, politiques. Et en fait, le business, je l'ai vraiment appris sur le terrain quand je suis rentrée dans des gros groupes qui étaient vraiment drivés, pour le coup, par le business. Et donc, c'est sur le terrain que j'ai appris l'entrepreneuriat.
Ouais, tu ne destinais pas du tout à ça. Dans ta famille, tes parents ou
pas du
des
tout,
gens qui
mais
pas du tout.
Aucun entrepreneur dans ma famille. Ma maman dans la finance, mais analyse financière. Et mon papa DAF, donc aucun rapport. En revanche, mon mari est entrepreneur. Donc, je pense que... Et il l'a fait tout de suite après son école de commerce. Et ça, en fait, ce qui m'a vraiment, je pense... inconsciemment drivé, c'était de voir qu'il avait une grande liberté dans son quotidien. Il a un peu un problème avec l'autorité. Si, m'écoute, il sera d'accord, je pense, pour que... Voilà. Et ce que je trouvais exceptionnel, c'est qu'en fait, il était arrivé à être très aligné avec qui il était. Donc, grande recherche de liberté. Et à la fois, il était passionné par ce qu'il faisait. Ça le réveillait la nuit, mais pas négativement, vraiment, parce qu'il avait des idées et tout. Et je trouvais que le fait d'être super aligné avec ce que tu recherches vraiment intrinsèquement quand tu te connais, lui-même dit « moi j'ai un problème avec l'autorité, moi je suis prêt à exploser les compteurs, quoi, à vraiment faire tout ce qu'il faut pour avoir la liberté dont j'ai besoin pour être bien dans ma vie ». Et pour lui, ça, c'était devenir entrepreneur. Et on était en 2009, donc c'était pas encore ultra la mode. C'est juste qu'il avait bien compris qui il était et du coup, il était aligné avec son projet pro. Et voilà, j'ai fait un petit aparté, mais je pense que le voir comme ça et aussi connaître moi ce qui me drivait a fait que j'ai vite compris qu'il fallait que je sois aux manettes de projets et que ces projets m'appartiennent et que j'en fasse ce que je veux. Quitte à prendre des risques, quitte à me mettre un peu en difficulté parfois quand je connaissais pas le sujet.
Parce que lui, il a monté son entreprise avant que toi tu commences.
Exactement. Lui, il a fait que ça, quoi. Okay. Il a monté une boîte et d'ailleurs, il est toujours à la tête de cette boîte. C'est vraiment, ça fait plus de 10 ans, ça marche très bien. Et je pense que voilà, ma famille l'a pas fait, mais mon mari tout de suite, en fait. Sans qu'il me le vante, tu vois, mais j'ai vraiment vu un alignement. Et moi, je n'étais pas alignée, en fait, totalement dans mes expériences pro. Et je l'ai compris en... Je pense qu'il faut vraiment faire ce boulot, tu vois, quand tu es dans des phases de bascule, pour le coup. C'est regarder intrinsèquement si tu es bien ou si tu ne l'es pas. Et si tu ne l'es pas, il faut vraiment... Mais c'est très dur, hein. Ce n'est pas un conseil comme ça à la noix. C'est vraiment... Il faut chercher en soi, se poser les questions, créer les conditions de se poser les questions, tu vois, vraiment qu'avec soi-même. Essayer de ne pas trop être influencé quand même. Et regarder dedans, tu vois. Et une fois que tu arrives à faire ce boulot un peu d'introspection, mais encore une fois, ce n'est pas des mots, c'est très difficile. C'est prendre le temps, s'arrêter, aller courir, aller marcher, faire de la cuisine tout seul, être dans son bain. Il faut presque penser à vouloir s'introspecter. Et une fois qu'on comprend bien si on est OK avec notre projet du moment ou si on ne l'est pas, analyser ça et après basculer, parce que le but dans la vie, c'est quand même être aligné avec soi-même, je pense. Et moi, vraiment, du coup, en ayant été intrapreneur, donc en gros, j'ai monté des boîtes pour des groupes. Donc, par exemple,
oui, parce que en gros, juste après ton stage à l'Élysée, du coup, tu es directement partie dans le privé.
Alors, après mon stage, du coup, j'ai été embauchée. Donc, je suis restée 2 ans à l'Élysée.
Et qu'est-ce que tu faisais exactement? Tu disais que tu étais dans le sport, mais...
Ouais, je conseillais le président de la République, qui à l'époque était Nicolas Sarkozy, sur tous les dossiers sports qui concernaient la présidence de la République.
Mais t'avais une appétence pour ce truc ou c'était vraiment un hasard?
En fait, le sport, donc, c'est vraiment aussi... je pense que c'est vraiment quelque chose chez moi de constance. Et avant d'être entrepreneur, j'ai été sportive. Donc notamment, j'ai fait beaucoup de ski en compétition. Et j'ai fait beaucoup d'athlétisme, j'étais prof d'athlète, j'ai fait 15 ans de tennis. Donc
non mais attends, mais comment c'est possible de faire... Tu faisais que du sport.
Ouais, ah oui. Mais en fait, ça, mes parents, pour le coup, sont très, très sportifs.
D'accord.
Et j'ai adoré, en fait, juste me confronter, je pense, à la performance sportive, à l'entraînement sportif. Et souvent, en plus, c'était des sports individuels, donc je me confrontais à souvent mes propres limites. Et j'aimais bien dépasser, en fait, ce sentiment de « j'y arrive pas, je tombe en ski, j'ai une seconde de trop au 100 mètres, et comment j'améliore, en fait, cette performance ». Ça, c'est quelque chose que j'adorais quand j'étais petite. Je l'ai compris après, hein. Mais j'ai une petite fille, elle a exactement ce même truc-là. Là, elle est en train de faire de la poutre à l'école, et quand elle tombe, ça la rend malade. Et donc, je me vois un peu. Et donc, j'ai commencé donc, ma carrière comme ça. Et en fait, la particularité de commencer sa carrière à l'Élysée, c'est que tu as un CDD. Ton contrat est conditionné au mandat présidentiel. Donc, si le mandat s'arrête pour le président, ce qui était le cas en 2012, ben en fait, c'est fini. Donc, il faut que tu cherches du boulot. Donc, c'est hyper bizarre parce que, en fait, pendant 2 ans, tout le monde veut te voir, déjeuner avec toi, tu travailles à l'Élysée. Donc, c'est vraiment délirant. Et moi, j'avais 24 ans, tu vois, 23, 24. Et du jour au lendemain, en fait, tu n'es plus personne, tu fais des cartons et puis tu te retrouves sans rien. Et tu te dis, mais attends, mais comment je vais faire? J'ai commencé là-haut. En fait, ça peut être que moins bien, en fait, ce qui va m'attendre. Donc ça, c'était un peu difficile à vivre quand même. Et donc, quand j'étais à l'Élysée, j'avais rencontré un patron d'une boîte de lobbying à APC qui venait avec des chefs d'entreprise pour m'exposer des sujets qui concernaient le sport où il y avait des arbitrages présidentiels parfois à faire. Et j'avais trouvé que cette boîte était vraiment très bien faite parce que c'était très structuré, très intelligent. À chaque fois que je le voyais, il me donnait un livre blanc. C'était vraiment impressionnant, la préparation. Et donc, une fois que j'ai quitté l'Élysée, j'ai décidé d'envoyer un mail à ce patron en disant, ton cabinet, j'ai trouvé vraiment que pendant 2 ans, t'avais fait un boulot incroyable quand on se rencontrait. Il m'a dit, on se rencontre. Je lui ai dit, moi, je suis dispo parce qu'il a perdu, quoi. Et donc, j'ai plus de boulot. Il m'a dit, c'est bon, tu peux commencer. Quels sont les patrons que t'aimerais conseiller en lobbying et communication? Donc, j'ai commencé à conseiller Alain Veil, donc, qui est le patron de... RMC, BFM, etc. Et d'autres patrons, Marc Simoncini. Et donc là, ça, c'était l'après un peu de l'Élysée. Et là, j'ai monté une offre de lobbying pensée pour les entrepreneurs. Donc ça, c'était une boîte pour le cabinet avec une offre vraiment pour les entrepreneurs de lobbying. Donc on était en 2012-13. Et par exemple, les entrepreneurs derrière des boîtes de VTC, ils devaient absolument faire du lobbying parce qu'ils avaient les taxis en face. Airbnb à l'époque, c'était Airbnb en 2012, ils avaient les hôteliers. Et donc, ces entrepreneurs, souvent, ces boîtes plus petites, ça paraît fou de dire Airbnb à l'époque, mais c'était ça, quoi. Ils cherchaient des moyens de se défendre pour que la législation leur barre pas la route du business. Et donc, j'ai dit à mon patron, il faut absolument faire une offre de lobbying pour les entrepreneurs, donc avec des moins gros budgets. Enfin, voilà. Et donc, c'est la première petite boîte que j'ai montée, donc c'était cool. Et après, je suis allée dans le groupe Au Féminin, donc qui est Au Féminin, My Little Paris, Marmiton, c'est un gros groupe média qui est présent dans 20 pays. Enfin, en fait, c'est pas auféminin.com, c'est vraiment... et là, j'ai rejoint Marie-Laure Sotichalon, la PDG du groupe, pour être directrice de la communication. Après, j'ai pris le business development de My Little Paris. Et pendant cette expérience qui a duré 2 ans, je tournais un peu en rond. Alors, c'était génial, je faisais plein de choses. Et j'ai dit à ma boss, soit je vais monter ma boîte, soit il faut que je monte une boîte pour Au Féminin. Donc, j'ai monté en intrapreneur une boîte d'e-commerce qui s'appelait Gretel, etc.
Mais attends, donc... mais ça, c'est un super conseil. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, au lieu de forcément se lancer, tu peux effectivement discuter avec ta hiérarchie et dire j'ai envie d'intraprendre. Quoi.
Ouais, exactement. Alors moi, en fait, pour être tout à fait honnête, j'ai dit à Marie-Laure, donc ma boss à l'époque, faut que je parte, faut que je monte ma boîte. Et elle m'a dit, ok, mais en fait, pourquoi ? On est encore toujours sur la question du pourquoi. Et je lui dis, parce que en fait, moi, ce que j'aime, c'est créer des nouveaux business. Il faut que je mette vraiment les mains dans le cambouis, il faut que j'exécute et tout. Et en fait, c'était bien la direction de la com. Je faisais plein de choses du business et tout, mais j'avais plein d'équipes, ça allait pas assez vite, etc. Et puis, j'avais vraiment besoin de liberté, mais dans mon travail, en fait. C'était pas... parce qu'on m'a jamais embêtée chez Au Féminin, les conditions de travail étaient géniales, c'était très souple, mais c'était plus avoir une liberté et notamment une agilité, tu vois, dans ce que je faisais. Et elle m'a dit, bah en fait, montre ce que tu veux, si le business est intéressant pour nous et que je suis ok et tout, montre ce que tu veux chez nous. Et donc elle voulait me garder. Et donc c'est génial parce que en fait c'était ma boss, c'était ma première salariée en fait. De Gretel, donc on a monté la boîte toutes les deux, quoi. Et donc je lui faisais des feedbacks, mais comme si elle était dans mon équipe. Donc ça a complètement retourné l'histoire. Et après j'ai embauché une stagiaire.
Attends, et donc Gretel, tu t'as pas dit ce que c'était?
Ouais, alors Gretel, c'était en fait le business d'Au Féminin, c'est vraiment l'e-commerce, c'est des box. My Little Paris, le gros business, c'est My Little Box. Et donc on avait l'asset média Marmiton, mais on n'avait rien sur la verticale e-commerce dans le food. Et donc, j'ai monté une boîte, une box de Danka Healthy, personnalisable, que tu recevais tous les mois chez toi. Donc, tu avais 75 produits qui allaient des abricots secs aux baies de goji. Donc, c'était healthy quand même, parce qu'il y avait une grosse tendance qu'on observait justement sur les réseaux et le média Marmiton autour du healthy, quoi. Les gens voulaient mieux manger, comprendre ce qu'il y avait derrière les aliments. Et donc, tu recevais 5 produits dans ta box que tu pouvais changer avec des conseils diète. Enfin, il y avait plein de trucs dans la boîte pour que ça te fasse vraiment plaisir. Donc, c'était assez classique comme business. Mais en fait, ça m'a vraiment appris à faire des opérations, tu vois, de A à Z sur un business.
Oui, c'est-à-dire que là, tu t'es dû aller négocier avec chaque marque.
J'étais acheteuse. Ouais. Je devais faire un PNL parce qu'il fallait quand même que ça crache. Je devais avoir des users, donc le marketing. Je devais faire le site internet, donc il me fallait un peu de la tech. Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Il y avait du conditionnement, de l'envoi, des trucs par des retours qui étaient quand même un peu une galère. Vraiment, toutes les parties que tu peux retrouver quand tu montes une boîte, c'est exactement pareil. Sauf qu'en fait, c'était même plus dur parce que là, du coup, j'avais une stagiaire et c'est tout. Et pas du tout de budget. J'ai pas fait de levée de fonds, de machin. Donc, je suis vraiment partie from scratch, de zéro, quoi. Sauf que quand même...
T'avais le poids de... Tu venais d'une boîte.
Et surtout, voilà. J'ai pas laissé mon... je continuais à être directrice de la communication et du biz dev.
Ah oui.
Donc j'avais mon salaire, en fait. Et en fait, à l'époque, en analysant un peu le sujet, j'avais juste peur de prendre un risque en n'étant plus salariée, en n'ayant plus de salaire. Et donc, je me disais, ok, en fait, je vais monter une boîte, mais à la fois, j'aurai l'avantage de ne pas prendre de risque si ça ne marche pas, ou je serai toujours bien payée. Et si ça marche, en fait, j'avais négocié évidemment pour que si ça marche, ça me rapporte un peu. Si ça marche, je toucherais en plus de mon salaire des gros bonus. Il s'est avéré qu'en fait, du coup, j'avais bien mis des objectifs derrière la box. Donc, le but, c'était d'acquérir 10 000, d'envoyer abonnés, 10 000 box rapidement. Et en fait, rapidement, j'ai atteint les 10 000 box. Et donc, je me suis dit, bon, d'accord, donc je vais renégocier en fait. Et donc là, je négociais avec les investisseurs du groupe qui étaient Axel Springer en Allemagne, même pas ma boss Marie-Laure. Et ils me disaient, bah non, en fait, t'as atteint tes objectifs, c'est terminé pour l'année. Enfin, on va pas te redonner de l'argent. Donc j'étais là, bah, quel est l'intérêt, en fait, que je bosse comme une malade la nuit, le jour, le week-end. Et là, du coup, pour en arriver un peu au sujet, énorme frustration. Et là, j'ai eu une crise un peu pro, vraiment, où je me suis dit, ah, mais attends, t'as tout fait, tu travailles deux fois plus en fait, parce que je continuais quand même bien faire
ce que j'allais dire, tu dois travailler énormément avec la direction, la communication.
Mais en fait j'étais passionnée, j'avais pas d'enfant, tu vois, donc je travaillais beaucoup. Et là, en fait, c'est des investisseurs en Allemagne. Enfin, le truc leur profite énormément, en fait, parce que voilà, c'était une nouvelle verticale, ça ouvrait des perspectives et tout. Au féminin était coté à l'époque, donc bon, pour plein de sujets, ça leur profitait. Et en fait, ils comprenaient rien au business. Et en fait, je vais là-bas une heure et ils me ferment la porte hyper rapidement, mais sans aucune considération. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'ai pas monté ça pour moi ? Tout ça, en fait, par un peu peur, tu vois. Pas totalement confiance en ma capacité à y arriver toute seule, alors que franchement, enfin, sauf Marie-Laure qui m'a aidée sur la strat, qui m'a donné d'énormes, enfin, de très bons conseils, mais vraiment ça ne m'a rien apporté de le faire en intrapreneur. Je me suis pas dit c'est Au Féminin qui a fait exploser la boxe. Enfin, et du coup j'ai analysé mon autre un peu expérience intrapreneur quand je faisais du lobbying. C'était exactement pareil. J'avais besoin d'être rassurée sur si ça marche pas, j'ai un filet de sécurité. Mais en fait, le risque était bien plus grand parce que, tu vois, ne pas être heureuse en fait de quelque chose que tu as fait pendant plus d'un an, tous les week-ends.
Parce que tu as mis un an à le lancer ?
Non, je l'ai lancé vraiment à partir du moment où elle m'a dit go, j'ai mis 3 mois quoi. Enfin,
Hyper
rapide, mais c'était pas un business très compliqué.
Ouais.
Ça demande juste vraiment d'être organisée. Et après, je l'ai lancé pendant plus d'un an. Et puis, ça, voilà. Après, j'ai recruté une petite équipe que j'adorais. Mais là, je me disais, j'ai monté quelque chose et en fait, ça ne m'appartient pas. Quoi. C'est un peu, t'accouches de ton bébé, on te dit, bah, je te le... non, c'est pas le tien. Donc, tu vois, et t'es là, je suis désolée, mais si. Bah non, en fait. Mais en fait, ils ont raison sur le papier.
Ouais.
En fait, et du coup, là, j'en viens à un peu le moteur intrinsèque. Je pense, quand tu te lances... J'ai l'impression que les entrepreneurs qui arrivent, quand tu creuses, tu leur parles, il y a toujours un moment où ils disent « là, j'avais besoin de prouver quoi ». Soit à moi, soit à des gens qui disent non, soit... Et ça, c'est bien de le savoir parce que dans les phases vraiment de down, quoi, dans les phases où c'est moins euphorique, ce moteur très puissant, en fait, qui est la frustration, où... quelque chose qui a bloqué chez toi, qui a généré un peu un saut, tu vois, c'est ce qui te fait tenir vraiment. C'est pas c'est pas les gens les plus expérimentés, les meilleurs sur le papier, qui ont les skills, désolé c'est un mot anglais, les compétences, les meilleurs qui y arrivent, sincèrement je pense, les meilleurs entrepreneurs, c'est des gens qui souvent ont quelque chose à prouver. Et c'est pareil dans le sport, c'est exactement pareil dans le sport. C'est ceux qui vont finalement s'entraîner beaucoup plus que les autres, qui vont s'accrocher vraiment plus. J'ai mille exemples, hein, mais Simone Biles, qui est la plus grande gymnaste du monde, tu vois, elle a été abandonnée par ses enfants, elle fait 1m50, elle a pas né dans des conditions super favorables, et pourtant c'est devenue la meilleure gymnaste au monde, qui est regardée par toutes les gymnastes sur Terre comme quelqu'un d'exceptionnel. Pareil pour Michael Schumacher, il vient d'un tout petit milieu. Tu vois, j'ai plein d'exemples dans le sport comme ça. Si tu regardes quels sont les meilleurs dans leur domaine, c'est souvent parce qu'ils ont un peu des fêlures. Et ils ont fait de ces fêlures des forces. Et donc, je pense que quand tu te lances, ou quand tu te demandes si tu as les capacités à te lancer, il faut bien connaître ça. Quel est ton moteur, tu vois, intrinsèque. Si vraiment ça va pas bien, comment tu fais pour tenir? Et souvent, ce que je dis à des gens qui veulent, qui se demandent s'ils vont se lancer ou qui vont lancer leur boîte, je leur dis, bah, mets-toi dans les conditions de te lancer. Donc vraiment, fais comme si aujourd'hui, c'était le kick-off de ta boîte. Et imagine que tu as un énorme pépin. Donc, ou sinon, regarde quel est l'obstacle le plus difficile dans ton projet, tu vois, quel est le truc qui te fait dire « Ah, mais en fait, on critique beaucoup mon projet là-dessus. Est-ce que les gens n'ont pas raison ?» Et si ça advient, comment tu fais pour le résoudre ? En fait, comment tu t'y prends ? Quelles sont les choses que tu mets en place pour essayer de dépasser ce problème ? Et donc, moi, ce que j'adore faire, c'est vraiment imaginer les conditions de la difficulté, quoi.
Ouais, c'est un bon conseil, ça. C'est assez vrai ce que tu disais sur les motivations, parce qu'il y a beaucoup de gens, et c'est revenu beaucoup dans les interviews du podcast, qui disent que souvent, tu as envie de lancer ta boîte parce que soit tu veux être libre, soit tu veux être riche, tu vois. Et qu'en fait, c'est, les deux sont des mauvaises motivations. Et ça rejoint aussi ce que tu dis, c'est que toi, ton why, enfin ton,
ouais,
ton truc vraiment, ce qui te motive, c'est pas, c'est ni l'un ni l'autre. C'est que tu avais envie de créer ton propre truc et que tu avais effectivement te prouvé à toi-même que tu étais capable de le faire.
Ouais, exactement. C'était vraiment ça. Et j'étais sûre et certaine, quand je suis partie de My Little Paris, que je voulais monter ma boîte. Y a, plus personne pouvait m'en empêcher parce qu'en fait, je l'avais fait deux fois. Ouais. Ça avait plutôt bien marché les deux fois. Et ce qui m'en avait empêché, en fait, c'était juste moi, en fait. C'était ma propre limite. C'était vraiment moi qui me l'étais mise. Donc là, j'avais décidé que c'était terminé. C'était... Et en fait, ce sentiment de s'être fait un peu avoir et tout, mais ça a décuplé mon énergie,
ouais,
pour me dire non, mais c'est bon, en fait. Et encore une fois, tu vois, ça revient un peu au début de ce que je disais, mais j'ai dû faire le... Ça m'a pris longtemps, en fait. Ça m'a pris 5-6 ans à me rendre compte de ça. Donc, ce travail un peu d'introspection, tu vois, d'analyser par, en fait, ce qui s'était passé et juste revenir en arrière des années qui se sont écoulées et analyser le truc. Il fallait vraiment que je m'introspecte, quoi. Que je... Et souvent, pour s'introspecter, encore une fois, désolée, c'est un peu le mot, j'avais pas prévu de faire tout ça sur l'introspection, mais il faut juste prendre le temps.
Et alors, j'allais dire, sur cette phase-là, tu t'es fait un peu accompagner ou comment t'as fait? Parce que c'est hyper dur, tu vois, de réfléchir à tes propres motivations.
Bah, en fait, je sais quand je réfléchis, c'est quand je cours. C'est okay. Hyper bizarre, tu vois, donc chacun ses marottes.
Non, mais c'est très vrai.
Et quand je cours, je sais pas, mais j'analyse des choses intérieures parce que j'ai le temps, je suis pas parasitée par des gens. C'est mon moment, je fais le parcours que je veux avec le temps que je veux. Je regarde jamais ma montre, en fait, parce que ça m'intéresse pas, c'est pas pour ça que je cours. Et donc, en fait, c'était ces moments-là où, du coup, j'ai plus couru après l'Élysée. J'étais contente de me remettre un peu... Enfin, après l'Élysée, après... voilà. Ouais, il y a des moments où j'ai plus couru, quoi, et je me disais, OK, bon, bah, j'y vais, en fait, aussi pour réfléchir, quoi. Donc... il faut savoir, parfois, les gens, c'est dans leur voiture. Enfin, chacun fait comme il veut pour un peu
prendre ce moment pour soi. Je trouve.
Sous la douche.
Ça ouais. Marche aussi. Mais ouais. Bon, tu peux pas prendre des douches de une heure non plus, mais...
ouais, c'est exactement ça. C'est savoir ce qui marche pour soi, quoi. Quels sont ces petits moments et du coup, les privilégier, tu vois. Vraiment en faire... ouais, en avoir plus à des moments clés comme ça de vie où tu te poses des questions... Il faut se forcer à... Puis parfois, ça vient pas. Hein. Parfois, tu cours et tu dis... Bon, bah là, j'ai pensé vraiment tu vois, à la recette du gâteau pour demain à midi. Quoi. Aucun rapport avec ton truc, mais c'est pas grave. Il faut aussi laisser les idées aussi venir clairement sans s'imposer de trouver une solution après le running, parce que sinon, c'est catastrophique.
Et donc, attends, là, tu... Donc, j'imagine que tu pars.
Ouais,
je crois. Ouais, t'étais un peu. Ouais, et t'as quel âge à ce moment-là? T'as même pas 30 ans, non?
Ouais, j'ai un peu plus de 30 ans, ouais, 31, 32, ouais.
Ok.
Ouais. Ouais, 30, 31, ouais, quelque chose comme ça.
Et là, donc tu sais que tu veux monter une boîte, toi, mais t'as pas encore d'idée, non?
Oui, alors, particularité aussi, c'est que à ce moment-là, on apprend que Au Féminin va se faire racheter par TF1. Et là, ma boss, du coup, Marie-Laure, et la personne avec qui je travaillais au quotidien, Fanny Pechioda, la fondatrice de My Little, me disent, bon, on ne peut pas l'annoncer encore aux équipes et tout, c'est soigné, mais on va partir toutes les deux. Alors là, pour moi, c'est hécatombe parce que je restais, parce qu'elles étaient exceptionnelles, ces deux personnes étaient exceptionnelles. Et donc, je leur dis, bon, bah, si vous partez, en fait, moi, je pars demain. Donc, en fait, je suis partie beaucoup plus vite qu'elles. Et je leur ai dit, je vais monter, de toute façon, ma boîte. J'en ai tellement envie que... Et Fanny Pechioda, on avait un projet dont on avait déjà pas mal parlé et tout. Et donc, en s'en parlant, on se dit, bon, bah, on va lancer ça. Une fois que tu seras partie, on lancera ça ensemble. Et en fait, c'est un fonds d'investissement à l'époque. J'avais fait un petit déj, me met en relation avec mon associé actuel en me disant, il faut que vous déjeuniez ensemble, je ne vous en dis pas plus, vous êtes tous les deux exceptionnels. Et là, voilà, donc, je ne le connaissais pas. Donc je me dis, oh là là.
Mais comment ils te connaissaient, tu disais
hein. Ouais, donc en fait, c'était la directrice de la communication de ce fonds que je connaissais, Alexandra André, elle s'appelait. Donc, c'était le fonds Serena Capital.
D'accord.
Et je la connaissais Bah parce qu'elle s'intéressait beaucoup à la tech, elle connaissait mon parcours, elle aimait beaucoup les médias, elle aimait l'e-commerce, elle aimait mon parcours un peu entrepreneur, elle m'avait suivie, elle connaissait aussi mon mari dans la tech, tu vois, donc c'était plus le sujet un peu de la tech, de l'entrepreneuriat. Et donc c'est elle qui nous met en relation. Et donc mon associé Alex Lebrun avait monté une boîte dans l'IA et s'était fait racheter sa boîte par Facebook, donc il était chez Facebook.
À l'époque déjà, époque. Parce que c'était il y a quoi, il y a une dizaine d'années?
Ouais, c'était... Ouais, c'est ça, il y a 6 ans, ouais, 6 ans.
Ok,
ouais,
parce que
même
là...
même avant, il s'est fait racheter sa boîte, il y a 9 ans, je pense, maintenant. Ouais, le temps passe. Et... le temps passe. Et donc, je vais chez Facebook déjeuner avec lui pour faire plaisir à Alexandra André, qui quand même connaît tout le monde, donc quand elle dit déjeuner ensemble, ça vaut le coup, on lui fait confiance. Et là, je rencontre Alex, j'avais 45 minutes. En fait, je suis restée 2h30 chez Facebook. Et il me dit, bon, ben voilà, je me fais m'en aller de Facebook bientôt. Je vais remonter une boîte dans l'IA. Voilà ma vision de l'IA et tout. Et j'avoue qu'à l'époque, je m'intéressais beaucoup aux cryptos. En fait, j'aimais bien un peu toutes ces vagues de profondes ruptures techno. Parce que c'est ce qui m'intéresse, tu vois. C'est comment je vois les 10 prochaines années d'un point de vue tech. Et c'est vrai que j'étais persuadée que l'IA, on était au tout début, que ça allait être très lent, contrairement à tout ce qu'on lisait dans les médias. Ça allait être une vague technologique très lente, mais que cette vague allait quand même être exponentielle et exceptionnelle pour les 10 prochaines années à venir. Et qu'il y en avait un, que cette personne était la personne qui s'y connaissait le mieux à Paris. Dans l'IA, donc Alex, il est ingénieur de formation, voilà, et vraiment c'est un des pontes en machine learning. Et donc voilà, et en fait, du coup, j'avais un peu deux projets, soit me lancer avec Fanny Pesciola sur un projet média, marketing, événementiel autour des femmes, enfin quelque chose que je savais très bien faire, soit vraiment un peu saut dans l'inconnu.
Qu'elle a fait finalement, non je...
Non, elle n'a pas, pas fait. Non. Okay. Non, c'était pas du tout ce qu'elle a monté après. Mais peut-être qu'elle va faire, on s'en parle souvent quand même. Et ouais, et Alex Lebrun, un projet vraiment très, très deep tech. Il ne savait pas encore qu'on allait être dans la santé. Donc ça, on l'a co-construit ensemble. Mais une compétence, tu vois, une vision et tout de l'IA, vraiment une des plus profondes qui m'a vraiment en fait convaincue. Et en plus de ça, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Enfin, on le rencontre, on a vraiment, vraiment envie de bosser avec lui. J'ai pris 5 références, tout le monde m'a dit « Non mais attends, mais il n'y en a qu'un à Paris, s'il faut monter une boîte, c'est avec lui. » Donc voilà, donc j'ai aussi pris des références, ça aussi peut-être, c'est un sujet, comment chercher un cofondateur et tout. Donc évidemment, il faut passer du temps avec lui. Nous, on a skié avant de s'associer ensemble, enfin, on a fait des trucs extra aussi pro. Mais surtout, il faut prendre des références, quoi. Il faut dire, OK, tu connais qui ? Pas hésiter à demander aux gens quels sont les défauts d'Alex, parce que du coup, je voulais les savoir, tout le monde a des défauts. Quels sont ses points forts ? Et il faut vraiment, vraiment pas hésiter à le faire, parce que s'associer, c'est comme se marier, en fait, d'un point de vue pro. On n'a pas le droit à l'erreur, sinon c'est beaucoup de difficultés à gérer après. C'est très, très angoissant quand ça ne se passe pas bien. C'est le pire qui puisse arriver, je trouve, quand on monte une boîte, c'est de ne pas avoir de bons associés. Ouais. Parce qu'en fait, on doit tout vivre avec eux, les mauvais moments, les bons moments. Et quand on se trompe, c'est vraiment désastreux. C'est comme un divorce, je pense. C'est très dur, quoi. Parce qu'on met tellement d'énergie, de ses tripes dans la boîte, que si ça se passe mal, c'est très dur à vivre. Franchement, j'en connais plein, hein, des entrepreneurs où ça se passe pas bien. Parfois, ils prennent des coachs. C'est vraiment comme quand t'es en process de divorce. T'essayes de recoller les morceaux et tout. Mais c'est beaucoup d'énergie à passer aussi là où tu montes pas ta boîte, où tu la fais pas grandir. Donc voilà. Donc mon conseil aussi, c'est vraiment, quand vous voulez vous associer, voir qui on a en commun. Et souvent, on a toujours des gens en commun, ou plus un plus un, mais... Et prendre des références. Okay. Super important.
Bien noté. Ouais. et oui, et donc c'est avec lui que tu vas monter Nabla, parce que t'as pas encore, qui est ta boîte actuelle,
ouais,
que tu n'as pas encore vraiment présenté, mais qui, on se doute, tourne autour de l'IA.
Voilà. Donc, je la présente. Donc, on est dans la santé, donc l'intelligence artificielle, et on développe des outils pour faire, en gros, gagner du temps aux médecins. Donc, un des produits, du coup, un des services principaux, c'est Nabla Copilot. Donc, en deux mots, c'est un produit qui permet d'extraire toutes les infos médicales qui sont issues des consultations médicales et de structurer ces informations pour en faire des comptes rendus médicaux. En gros, le médecin, au lieu de taper sur son ordinateur quand il vous est en consultation, eh ben la machine le fait à sa place et structure toutes ces infos médicales.
Mais à partir de quoi ? À partir de ce que dit le patient ?
À partir de ce qu'il dit et de ce que dit le patient. Donc, moi, je suis ton médecin, tu es ma patiente. Tu me dis, je prends du Doliprane, Levothyrox, j'ai mal à la tête, je suis allergique au pollen, etc. Et ça, la machine l'entend et le structure dans le compte-rendu que fait le médecin et l'upload, enrichit le logiciel qu'utilise le médecin. Donc lui, toutes les infos médicales que tu lui dis pendant les consultations sont directement intégrées au logiciel qu'il utilise pour te suivre sur le long terme.
D'accord.
Donc en gros, c'est vraiment, vous n'avez plus d'admin à faire, à taper sur votre ordinateur. Les ordonnances, il dicte l'ordonnance et il y a l'ordonnance qui est automatiquement rédigée. Il y a des enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, les courriers qui se font entre professionnels de santé, quand par exemple, ton médecin généraliste te voit et adresse un courrier à une gynécologue pour un problème de gynécologie, il doit faire un courrier pour adresser un patient. Et bien ça, il le dicte, en gros, ça le fait en 10 secondes. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui leur font gagner du temps. Et notre marché principal, c'est les États-Unis, parce qu'en fait, il y a un métier qui s'appelle Medical Scribe aux États-Unis. Et c'est des étudiants, souvent, qui prennent des notes pendant les consultations.
Okay.
Parce qu'un médecin, c'est 1 million le salaire moyen d'un médecin. Donc le médecin, il n'a pas de temps à perdre. Donc voilà. Et donc nous, on vient automatiser en gros ces tâches administratives, toute cette documentation clinique.
Du coup, tu remplaces un peu ce que font les...
Les medical scribes.
Ouais.
Et c'est un gros problème pour les cliniques, les hôpitaux, parce qu'il y a beaucoup de turnover, vu que c'est des petits boulots. Pour eux, c'est un enfer à gérer en termes de RH. Beaucoup de turnover, c'est très mal payé, donc ils ne se pointent pas... Ils sont là le lundi, ils ne sont pas là le mardi, sauf que le docteur, il a 50 patients dans la journée, il est oncologue, il a autre chose à faire. Et donc, ça désorganise beaucoup le système de santé américain, ce sujet-là. Et donc, on automatise tout ça. Donc, voilà. Donc, par exemple, c'est une des choses qu'on fait. On fait plein d'autres choses, mais ça, c'est ce qui parle le plus souvent.
Et alors, attends, quand tu montnes ça, donc t'es partie de Féminin, financièrement, t'as fait quoi ?
Alors, j'ai réussi à avoir une rupture conventionnelle. Donc, pendant deux ans. Donc, on a pris vraiment la rupture. On a fait une levée de fonds de 2 millions. On est trois associés, il y a Martin aussi.
Donc, tu décides de t'associer. Et au début, comment tu fais ? Tu concrètement pour juste... Tu lèves des fonds dès le début ?
Ouais, on lève des fonds dès le début.
Ok.
Donc, c'est des entrepreneurs, souvent, qui ont été nos investisseurs, que soit je connaissais, par exemple Marc Simoncini, j'avais bossé avec lui. Je lui ai dit, je monte une boîte, est-ce que tu veux investir ?
Oui, donc c'était des gens qui savaient que tu avais fait tes preuves. Tous. Parce que c'est compliqué quand même de lever de l'argent alors que tu n'as rien fait, que personne ne te connaît.
Tous. Ouais. C'est tous des gens qui personnellement nous connaissaient, savaient comment on travaillait, qui on était. Soit Alex, soit moi. En gros, vraiment, tous nos business angels, c'est que des gens un peu qui... On pensait pas lever 2 millions, hein, on pensait lever plutôt 1 million. Et en fait, on leur a dit, vous avez un mois, voilà la présentation du projet, qui était encore très flou, mais on ne s'est pas du tout caché de ça. On a dit, on ne sait pas bien encore. Voilà le rationnel du projet et va advenir quelque chose, mais on préfère vraiment... On était dans une démarche où il fallait qu'on ait beaucoup de feedback aussi avant de se décider sur le produit. Ce qui est très rassurant, en fait, quand tu connais l'entrepreneuriat. Tu sais que ta première idée n'est souvent pas celle qui va marcher. Donc, pour contrer ça, l'idéal, c'est quand même de récolter beaucoup de feedback de tes potentiels utilisateurs, etc., pour après développer ton produit. Ouais. Parce que si tu développes ton produit et que tu te rends compte que ce n'est pas le bon, tu as perdu beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Donc
alors attends, ça c'est intéressant parce qu'on en parle souvent avec des gens qui ont entrepris des choses, d'essayer de tester au max son marché avant. Comment tu fais concrètement, toi, sur un truc comme ça qui est encore assez peu connu ? C'est-à-dire que tu vas voir les médecins, comment tu fais pour avoir leur feedback, savoir si c'est un produit qui peut les aider ?
Hyper dur. Bah, en fait, on a pris la moto d'Alex et donc je montais derrière lui et on allait toquer à la porte de cabinet Et on nous disait, oui, je connais cette gynécologue, cette sage-femme, cette généraliste, allez la voir de ma part. Donc, soit elle nous faisait l'intro, soit on appelait le secrétariat, on disait, on vient de la part, ça vous prendra juste un quart d'heure à votre pause déjeuner, on vous apporte un Pokéball. Non, mais vraiment, hyper... Et voilà, on veut juste avoir votre feedback, il n'y a rien à acheter, mais vraiment, on est recommandé par votre copine, qui est aussi généraliste, qui vous adore, vous êtes la meilleure, vous êtes hyper tech, il paraît. Et donc là, les gens, ils pleuraient à la limite pour nous, ils étaient, bon, ok. Et donc au début, ça a commencé comme ça. Le plus dur, c'est le début. Parce que le plus dur, franchement, en plus, on ne venait pas de la santé et tout. Et le plus dur, c'est d'avoir les premiers. Après, une fois que tu as grand professeur qui soutient Nabla, elle qui, tu vois... je ne sais pas, une grande gynécologue qui a écrit plein de quotes, qui a fait un use case avec toi, etc. Dès que tu commences à un peu communiquer auprès des médecins, mais c'est d'autres médecins qui le disent, tu es crédible. Ouais. Mais les plus durs, c'est le début. Personne, en fait, te connaît. T'as personne dans le médical. Et là, ça, c'était assez dur.
Et tu disais que tu n'étais pas sûre de ton produit. Et du coup, comment tu faisais? C'est-à-dire que tu leur proposais plusieurs cas de figure?
Ouais. Alors, on a... Alors, je pourrais en parler pendant 3-4 heures, je pense, mais pour aller à l'essentiel. Donc, on récoltait beaucoup leur feedback sur leur... Je vais parler en anglais. Sur leur pain point, tu vois, sur leur...
Leurs problèmes,
leurs difficultés au quotidien. On leur disait, expliquez-moi votre journée. Et donc là, franchement, les médecins, c'est des héros aujourd'hui. Hein. Ils sont vraiment limite du burn-out, la moitié d'entre eux. Ils nous disaient, ben voilà, en fait, moi, je passe 75% de mon temps, en fait, à faire de la paperasse. J'en peux plus, en fait. C'est pas pour ça que j'ai fait 10 ans de médecine. Et ça ressortait énormément. La paperasse. Le week-end, je fais ça. Le soir, je rentre chez moi, je vois pas mes enfants ou je les couche et après, je me remets sur les papiers. Donc, quand on nous dit ça, tu comprends qu'il y a un problème avec la paperasse et qu'il faut s'y attaquer. Et en plus, pas de solution. Donc, on a beaucoup identifié des pains, des difficultés communes à plusieurs professionnels de santé. Et après, on leur demandait, mais qu'est-ce qui vous... Ma question numéro 1, je la posais tout le temps. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez? Et ça, c'est génial. En fait, la question de la baguette magique, ça te crée ta boîte, en fait. Ils te disent le produit qu'ils veulent. Et si, avec leur baguette magique, il y a tout le temps le même truc qui revient, tu dis, bon... Là, est-ce qu'on ne peut pas essayer de le faire? Donc ça, c'était la première façon d'y aller pour construire le produit. Et l'autre façon, c'est qu'on a carrément créé notre propre clinique digitale dédiée à la santé des femmes. Parce que la santé... Bon, il y a plein de sujets qui sont durs dans l'entrepreneuriat, mais cette santé, c'est super dur. Très réglementé, très, très dur. Très peu d'innovation, le business model ultra compliqué. Et donc, on s'est dit, pour avoir des vrais retours de médecins et des vrais retours de patients avec les problèmes de conformité qu'il faut avoir en tête, donc conformité aux data, sécurité, confidentialité, vraiment très compliqué, on va créer notre clinique digitale. Donc on avait des médecins qui travaillent avec nous, et on avait, moi c'est une boîte d'ingénieurs, Nabla, hein, vraiment j'ai beaucoup de devs, presque que ça, et donc on a créé un service qui permettait à toutes les femmes d'avoir des réponses à leurs questions en moins de 2 heures, donc sur une application.
Ok, donc c'était pas des consultations, c'était en gros, t'as un problème gynéco ou quoi que ce soit, tu vas en ligne, tu poses ta question.
Voilà, alors très bonne remarque, au début c'était tout par chat. Donc tu pouvais voilà, et après on a ouvert les téléconsultations, donc c'était quand même téléconsultations,
okay.
Voilà, et après on pouvait être réorienté parce que du coup il y avait un annuaire de médecins référés, tu pouvais après prendre rendez-vous en physique, mais ça c'était plus Nabla. Donc voilà, mais c'était vraiment le parcours digital.
Et ça tu l'avais créé vraiment juste pour avoir du feedback, alors, ou pour comprendre les mécanismes?
Mais mon associé Alex pensait quand même que ça allait être un service qui allait beaucoup plaire et que peut-être qu'à terme, on scalerait ça dans le monde entier. Sauf que business model très compliqué, parce que le chat, c'est pas remboursé par la Sécu. Donc d'avoir des réponses de médecins qui sont parfois exceptionnelles. Hein, c'est des réponses... t'as jamais eu un truc comme ça pendant une consultation tellement c'est approfondi. Puis le chat, il est ouvert, donc tu peux poser des questions à l'infini. Donc c'était vraiment ultra apprécié par les femmes, mais compliqué parce que la santé, on était en France au début, les gens sont peu quand même à même de payer pour des trucs non remboursés. C'est beaucoup plus dur. Et après, on a lancé ça au UK aussi pour avoir vraiment un produit qui marche en anglais et avoir des feedbacks de médecins anglophones. Et ça revenait tout le temps. Ils nous disaient, en fait, il me faut... soit je veux utiliser votre plateforme, la plateforme qu'utilisaient nos médecins pour suivre leurs patients. Donc là, tu vois, on se réorientait vers... On est une boîte de tech. On sait construire de la tech pour les médecins. Ça revenait tout le temps, en fait. Les médecins, à chaque fois qu'on leur parlait de Nabla, ils disaient « Ah, mais vous pouvez me développer ça. C'est génial, votre plateforme. Il me faudrait ça aussi. » Et là, on s'est dit « Bon, franchement, on le savait déjà. » Mais réalignons-nous, c'est vraiment le mot, l'alignement. Réalignons-nous avec l'ADN de notre équipe qui est, encore une fois, on est une boîte d'ingénieurs. Ils ont tous Félix dans la boîte. C'est des pros en machine learning. C'est ça qu'on sait faire. Donc on s'est refocus et la clinique, ça a été encore le moyen de récolter plus de feedback. On a eu 30 000 patients, donc là, et plein de médecins qui utilisaient. Donc, beaucoup de data aussi pour faire fonctionner des modèles. C'est ça la spécificité du machine learning, c'est qu'il faut beaucoup de data pour que les modèles qu'on crée soient solides. Donc, on ne peut pas tout de suite créer un produit qui marche très bien sur un use case santé. Parce que, bon, là, je vais faire une petite aparté. Même si OpenAI, avec ChatGPT, ils font des trucs géniaux, c'est très généraliste. Mais en fait, la santé, c'est spécial. Donc, il faut des datas où on te parle de lévothyrox, paracétamol, mal au genou, tendinite, céphalée. Tous ces mots-là, en fait, il faut que les modèles apprennent pour que quand c'est dans la discussion, ça le capte et ça le structure. Là, je vais un peu dans la tête, donc je vais m'arrêter parce que je vais perdre tout le monde. Restez là, s'il vous plaît.
C'est assez clair, mais c'est passionnant. Hein.
Oui, c'est passionnant, mais bon, les gens vont se dire, mais de quoi elle parle?
Ok, non, mais hyper intéressant. Et donc, toute cette phase de test, ça dure quoi? Ça dure quand même...
Un an.
Ouais.
Énorme.
Ah, c'est pas si long que ça, en fait.
Ouais, même un peu plus. Même un peu plus.
Avant de vraiment te trouver l'idée qui est aujourd'hui le cœur de votre business.
Ouais.
Ok.
Non, mais je connais presque aucun entrepreneur qui a lancé l'idée qu'il avait au départ et qui a fait que c'était l'idée qui a cartonné. Presque aucun. Ou en tout cas, ils se sont
c'est bon à savoir.
Repositionnés. Ils ont spécifié leur vision pour se spécialiser sur un use case au départ. Sincèrement, de tous les gens que je connais, ça existe quand même. Quand c'est des business qui existent déjà, en fait, où tu dis « je vais faire mieux » que le concurrent, ou je fais ça, c'est ok parce qu'en fait la preuve de concept, la preuve du marché, elle est déjà là. Mais des choses un peu de rupture où tu crées ça s'appelle des nouvelles catégories, tu vois, en entrepreneuriat, où tu crées des nouveaux services. Typiquement, ça n'existe pas dans le métier des médecins aujourd'hui, avoir une IA qui écoute la consultation et qui vient juste extraire les infos médicales pour rien taper. Ça n'existe pas comme produit. C'est pas une énième offre de cloud. Bon, si tu lances ça, ok, il est possible que tu pivotes pas. Mais quand tu veux un peu, créer l'automobile après le carrosse, au début, tu te cherches quand même un peu, tu vois, sur la conception de l'auto, quoi. Et donc, quand vraiment tu as envie d'innover profondément, non, je connais vraiment pas beaucoup d'entrepreneurs qui sont arrivés du premier coup sans itérer beaucoup, quoi.
Donc, ton conseil, c'est d'y aller le plus vite possible, en gros, avec un début d'idée.
Ouais.
Ouais.
Ouais. Et vraiment aller le plus vite possible, mais quand même stratégie des petits pas sur les feedbacks, quoi. Pas oublier, en fait. Parce que parfois, on est tellement excité par son idée qu'on est bille en tête et tout, qu'on exécute à fond. Et qu'on en oublie, enfin, c'est pas qu'on oublie, on en prend, mais on n'accorde pas assez d'importance à récolter des retours sur le produit. On se dit, ah oui, c'est bon, genre, bon, c'est bon, la stagiaire, elle le fait un peu, j'ai compris, ils veulent vite faire ça. Mais non, en fait, c'est vraiment aux gens qui créent le produit qui doivent faire ça. Surtout quand on commence, c'est vraiment la première chose à faire, tu vois. C'est être très, très proche de tes utilisateurs. Et toutes les boîtes qui sont arrivées, Amazon, c'est les meilleurs pour ça, tu vois. C'est être le plus proche du user pour comprendre qu'en fait, tout l'intérêt, c'est de diminuer le délai de livraison parce que c'est ça qui plaît, tu vois. Et donc, il faut la bataille, elle est sur la livraison au début pour Amazon. Au début, ils vendaient des bouquins, les mecs, et en fait, pas du tout. C'est plus du tout ça, Amazon. C'est plus une librairie en ligne. C'est même maintenant, ils se font taxer sur les bouquins. La livraison, c'est... donc tu vois, heureusement qu'ils ne sont pas restés là-dessus, sinon ils seraient morts. Donc tu vois, c'est juste un exemple, Amazon. Mais ils ont, pourquoi ils sont hyper forts? Parce qu'ils sont user-centric comme jamais. Et je trouve que les bons entrepreneurs, c'est ceux qui ne négligent pas ça, en fait. Qui ne se disent pas, bon, c'est le mec au market, un peu au produit, vite fait, qui va faire ça. Non, en fait, c'est le fondateur qui doit le faire tout le temps, quoi. Ouais. Et tout le temps.
Donc, toujours sonder ton marché ou ouais. Écouter tes feedbacks. Et... OK.
Et ce qui est dur, c'est que tu dis, bon, j'ai d'autres choses plus prio. En fait, je suis sous l'eau. Et donc, en fait, tu sais, c'est toujours les trucs qui sont pas... T'as l'impression que c'est pas existentiel. Enfin, que ça va pas casser ta boîte de pas le faire versus la clôture comptable, ton board avec les investisseurs où t'as des deadlines à respecter. Alors que ça, t'as pas de deadline. Et donc, le piège, c'est de se dire, bon, comme j'ai pas d'échéance derrière ça, bah, c'est pas grave si je le fais pas cette semaine. Bah non, en fait, si, c'est hyper grave. C'est ça qu'il faut comprendre.
Est-ce qu'il y a des moments où tu as douté?
Ah bah je doute tout le temps. Moi tout le temps. Pourtant j'ai ça peut paraître un peu prétentieux de dire ça, mais j'ai une énorme confiance en moi parce que je me connais. Donc je sais
mes forces. Des choses aussi.
Ouais, j'ai fait des forces, j'ai fait des choses et j'ai des gens qui m'entourent aussi qui me donnent beaucoup confiance sans que je leur demande, mais je vois dans leurs yeux que ils apprécient, tu vois, bosser avec moi ou mes retours ou plein de choses. Donc ça me donne beaucoup confiance. Mais les doutes sans arrêt, franchement, tout le temps, sur est-ce que je vais assez vite, est-ce que c'est assez structuré ma semaine, est-ce que j'ai pas loupé un meeting super important, est-ce que j'ai assez bien priorisé, est-ce que finalement cette direction-là, c'est la bonne, est-ce que les équipes, parce qu'on n'a pas les meilleurs chiffres cette semaine par rapport à il y a un mois, la courbe elle est un peu en inflexion, ça va repartir, mais pourquoi? Est-ce qu'ils vont pas se casser ailleurs, tu vois? Est-ce qu'ils vont pas démissionner? Est-ce que le fait que j'étais pas là au pot de départ de machin, ça a été vu super négativement par l'équipe parce qu'en fait ils vont penser que je m'en fous de lui, mais pas du tout, c'est parce que j'avais mon petit qui était malade. Tu vois, ces moments de doute en fait, tu les as tout le temps. C'est est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Compte tenu des paramètres, tu vois, qui sont les miens à un moment T, tout le temps, je me demande si je prends les bonnes décisions.
Ok, donc t'as pas de conseil miracle là-dessus, ça fait partie du package, quoi.
En fait, mon conseil, c'est vraiment, c'est exactement ce que tu viens de dire, ça fait partie du package. Si vous vous dites, si j'ai des doutes, c'est que je suis pas fait pour ça, alors c'est l'inverse, en fait, parce que ça montre que vous êtes assez... objective avec vous-même, mais surtout que vous êtes très réaliste face à ce qui vous attend. Donc c'est bien de le savoir. Pas en avoir conscience, c'est presque être kamikaze. Et aussi, je pense que ce qui fait la différence quand même, c'est qu'une fois que tu sais ça, tu sais que tu as un chemin qui est une course de haies. C'est un marathon, mais avec des haies. Et donc en fait, tu sais que tu as des haies, tu vois, à sauter. Donc ça, c'est tes moments de doute, les haies. Tu vas t'exploser sur certaines haies qui sont plus hautes que d'autres. Tu vas t'épuiser à force d'en sauter 5 ou 10 d'affilée. Mais quand même, le fait de savoir que c'est cette course qui est devant toi, bon, bah, c'est bon. En fait, tu l'anticipes et ça ne te surprend pas. Tu vois, c'est pas comme si tu as signé pour cette course. Tu n'as pas signé pour une course de marathon sans haies. Et donc, c'est comme le mec qui surfe, tu vois, sur la vague. Il y a des vagues qui vont être canons et il y a des vagues, il ne saura pas les prendre, il va se prendre des... Mais en fait, c'est intrinsèque au surf, la vague, qui peut être immense, pas comme tu veux. Et donc, quand tu es conscient de ça, de ce qui t'attend, des vagues plus ou moins hautes, et bah, le but, c'est d'apprendre à surfer, quoi, et à rester sur la planche de surf le plus possible. Donc, désolée, je fais des métaphores un peu filées, mais avec le sport encore. Mais ouais, moi, mon conseil, c'est être conscient, quoi, de ça. Et après, ça se passe bien.
Ok, c'est déjà ça, j'essaie de le savoir. Et il y a un autre aspect qu'on avait évoqué quand on préparait l'entretien, mais dont on n'a pas encore parlé, c'est que toi aussi, tu accordes une importance à ton équilibre vie pro, vie perso.
Ouais, énorme. Bah, donc, je suis... C'est vrai que... c'est difficile parce que même là, tu vois, je ne sais pas comment je me définis. Je suis à la fois maman, entrepreneur, femme de mon mari, sportive moi avec moi-même. J'ai plein de facettes qui sont super importantes, très très proches de ma famille. Donc, et donc, ce qui est hyper dur, c'est pas le boulot en soi ou les enfants en soi, c'est plutôt de tout concilier. Et je pense que toutes les femmes, qu'elles soient entrepreneurs ou pas entrepreneurs, elles ont cette problématique. Toutes les femmes, mais même les hommes, hein, maintenant, ils font quand même beaucoup, beaucoup de choses multifacettes. Et donc, je sais que si j'arrive pas à trouver un bon point d'équilibre avec toutes ces vies qui sont très importantes pour moi, c'est là où je peux m'écrouler, quoi. Si j'arrive pas à trouver le moyen de tenir cet équilibre, ouais, c'est vraiment très dur. Et donc, comment je fais pour essayer de le faire, de trouver l'équilibre entre toutes ces vies? Je suis très transparente déjà avec tout le monde, que ça soit mon mari ou mon équipe pro au bureau. J'ai un agenda où vraiment tout est écrit. Je suis livre ouvert. Et si ça ne plaît pas aux gens, bah, je veux bien en parler, en fait. Mais par exemple, quand il y a rendez-vous médical pour mon petit de 2 ans, c'est dans mon agenda. Quand mon mari, là, j'ai une soirée, j'en ai même beaucoup, c'est dans l'agenda avec mon mari, je lui dis avant. Et donc, en fait, j'ai l'impression que plus on met les pieds dans le plat dans toutes les vies qu'on veut embrasser, avec les gens qui sont participantes, ouais, à cette vie, plus, en fait, c'est accepté. Et moi, ouais, c'est vraiment ça, mon conseil. C'est être vraiment dans la transparence maximum sur « je suis maman, c'est super prioritaire pour moi. Allez, cette sortie d'école, j'y vais jamais. Cette fois-ci, j'irai, c'est dans l'agenda. Et j'invente pas quelque chose, quoi. Je le mets vraiment. Et j'ai l'impression que la société actuelle, autant il y a 20 ans, c'était plus dur, je pense, pour les femmes, parce que c'était moins accepté, mais j'ai l'impression que la société actuelle, ces sujets-là, de conciliation, de vie perso, d'équilibre, c'est super important pour tout le monde. Et moi-même, en fait, c'est là où je le fais encore plus, c'est que j'ai un devoir d'exemple, en fait, envers les gens de la boîte. Et quand ils voient ça, ils se disent, c'est bon, moi, je vais faire pareil, en fait. C'est bon, je vais enfin aller chez le dentiste, me faire regarder les yeux parce que ça fait 3 ans que je ne l'ai pas fait. Je ne vais pas tout ne va pas tourner autour de Nabla. Je vais privilégier aussi des moments très importants pour moi en perso. Et donc, j'ai une salariée qui est enceinte et elle m'a dit, en fait, le fait de te voir enceinte quand tu montais ta boîte et tout, ça m'a vachement rassurée. Sur ma capacité à rester dans la boîte à ce même niveau, avec un gros impact, je vais y arriver, en fait. Et du coup, c'est génial qu'elle m'ait dit ça, parce que je me suis dit, au départ, je me forçais pour moi à faire ça, pour trouver cet équilibre, mais maintenant, finalement, c'est presque les autres qui me donnent raison dans cette capacité à mettre les pieds dans le plat, en fait. Je suis maman, c'est comme ça et tout, et je dicte les règles que je veux, et si ça plaît pas aux gens, on s'en parle et soit ils partent, soit je fais différemment, peut-être. Mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment communiquer le plus ouvertement possible sur ça. Et c'est très rare, les critiques.
C'est hyper sain, en fait.
Ouais.
C'est OK.
C'est très rare, en fait, les critiques. C'est très décrié, maintenant, les gens qui critiquent ça. Donc, et les gens, ils savent aussi que je me reconnecte un peu le soir. Enfin... Voilà, j'essaye aussi de trouver un équilibre faire pour que tout avance bien, hein, mais il faut, encore une fois, c'est un sujet de confiance, en fait, être très confiante dans sa capacité à dicter ses règles, et c'est tes règles, et si les gens sont pas contents, pas là pour plaire à tout le monde non plus, donc le but, ils seront pas là à votre enterrement, en fait, hein, donc faites comme vous voulez, non mais c'est vrai, et par contre, vos enfants, ou même vos associés, ou la boîte que vous créerez et tout, elle aura un impact sur votre vie, donc ça, c'est le plus important, c'est de trouver la bonne recette, en fait, et la mettre bien en place, avec bien les pieds dans le plat, quoi, sur l'orga.
Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent, des gens, des livres, des ouvrages, des films, dans tes process un peu de bascule, ou dans ta vie au quotidien?
Ouais, alors là, pareil, j'adore tous les documentaires sur le sport. Donc, par exemple...
Mais il y en a un qui était super sur Canal, qui est passé il n'y a pas longtemps, les dieux... Attends, c'était quoi?
Ah oui,
t'as dû le voir.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
C'était quoi, les dieux de... Il n'y avait pas de dieux dans le... Je ne me rappelle plus du titre, mais bref.
Mais par exemple, Formula, bon, j'adore la Formula One, mais il y a un documentaire qui s'appelle Cheers et la coach. Donc, c'est sur le cheerleading. Donc, on a l'impression que c'est un truc hyper frivole. Mais c'est complètement fou. Okay. L'énergie, l'entraînement, ces filles sont exceptionnelles. Et donc, tu les vois vraiment à l'entraînement, en fait. C'est pas, tu les vois pas forcément sur les stades de foot américain, pas du tout. Tu les vois s'entraîner. Et il y a une coach qui s'appelle Monica, j'adore la rencontrer, qui est incroyable parce qu'elle arrive à faire se dépasser des filles qui ont un peu des problèmes psychologiques parce qu'elles ont 15 ans, 16 ans, enfin pas forcément psychologiques mais un peu d'ados qui sont un peu en échec scolaire et tout, et tu vois que ces femmes en fait elles vont prendre confiance toute leur vie grâce à cette coach. Donc ça, bon, je la connais pas personnellement, mais sinon non, j'ai plein de femmes qui me qui sont incroyables quoi. J'en ai plein là, mais c'est pas forcément des entrepreneurs. Mais par exemple, je fais beaucoup de un peu mentoring avec des entrepreneurs que je connais pas forcément tout de suite, mais qui me demandent de se rencontrer et tout. Et là, il y en a une, tu vois, qui vient de s'associer avec l'ancien fondateur de Blablacar, Fred Mazzella, qui s'appelle Clara Pigé, qui a 25 ans. Et en fait, elle est venue me voir pour me dire comment je fais pour faire tout ça et tout, comment tu fais toi, etc. Et elle a tellement une fraîcheur de « Ah ben, je vais y arriver, il faut juste que je prenne des feedbacks et que je m'organise bien, etc. » Et je me disais « Mais c'est génial, à 25 ans, elle sort d'école et tout, elle va s'associer avec le fondateur de Mazzella qui lui fait totalement confiance. » Et c'est plutôt parfois des gens très terre-à-terre qui se disent et qui ont un gros drive quand même, tu vois, qui savent leurs limites, tu vois. Quand elle vient me voir, elle me dit « Je sais pas faire, donne-moi des infos, des conseils, qu'il faut que je voie. » C'est plutôt des gens un peu effrontés, tu vois, qui vont vraiment de l'avant, qui ont pas peur. Ça m'impressionne beaucoup. Et j'aimerais bien garder ça chez moi, parce que je sais que c'est quand même un atout de jeunesse. Quand on vieillit, on se dit « Mais c'est risqué, en fait, maintenant que j'ai des enfants et tout. » C'est plutôt des fraîcheurs comme ça. Et après...
Ou quand t'as pas fait l'étude aussi, je trouve.
Quand t'as pas fait d'études.
Là, mon conjoint, il a pas du tout fait quasiment pas d'études. Et tu vois, sur plein de sujets, je me dis, moi qui ai fait énormément d'études, en fait, lui, il a un tempérament beaucoup plus je fais, je vois après, tu vois.
Ouais.
Alors que toi, t'es plus dans ouais, mais le risque, machin. Et je trouve qu'il y a une part. Alors, il y a une part de personnalité, mais il y a aussi une part de ce qu'on t'a éduqué, tu vois.
Ouais.
De ce qu'on t'a inculqué.
Je suis complètement d'accord. Et après, non, mais tu l'as interviewée, Caroline Vigneault, c'est une de mes copines, une très très bonne copine.
Okay.
Et elle, c'est pareil, mais au début, donc j'étais chez Au Féminin, donc il y a longtemps, c'était tout début de sa carrière. Personne voulait la sponsor et tout. Et donc, elle est venue me voir, elle me dit, j'aimerais qu'Au Féminin, donc j'étais directrice de la com, sponsorise fasse un partenariat, parle de mon spectacle sur les médias et tout. Et en fait, elle était tellement géniale. J'ai trouvé, franchement, personne ne la connaissait trop encore. Elle était tellement drôle aussi avec moi. On a trop rigolé et tout. Et je lui ai dit, bah, ouais, d'accord, donc c'est bon. Donc, Au Féminin va être partenaire. Donc, on l'a vachement soutenue. J'ai invité tous mes clients. Et tu vois, Caroline Vigneault, vraiment, elle n'a pas du tout peur. Elle lâche tout et tout. Et je la trouve exceptionnelle. Elle est, pareil, maman de deux enfants, etc. Avec une vie complètement folle, bon, perso. Et pour autant, elle est très solide. Elle a des fondations très solides. Parce que elle sait exactement elle où elle veut être.
Elle est alignée, ouais.
Ouais. Voilà. Après, j'adore Agathe Vautier, c'est la fondatrice du Galion. Donc le Galion, c'est un think tank, tu vois, une espèce d'association où il y a plein d'entrepreneurs et le but, c'est vraiment de s'aider et de parler de l'envers du décor de l'entrepreneuriat. Donc, il y a tous les grands entrepreneurs de Paris, etc., et qui sont aussi à l'international. Et donc, elle a fait ce collectif. Et vraiment, on ne parle que de nos galères sur le Télégramme, dans les dîners. Et en fait, je la suis super remerciante de faire ça parce que tu te rends compte qu'en fait, l'entrepreneuriat, contrairement à tout ce qui est dans les médias, c'est beaucoup de difficultés et que c'est comme ça pour tous les entrepreneurs. Mais même les licornes, tous ceux que vous voyez en portrait et tout, ils ont tous des super galères. C'est dur pour tout le monde. Mais c'est pas grave. C'est juste que se dire que non seulement ça fait partie du chemin, comme je l'ai dit, et de la trajectoire, mais qu'en plus, tout le monde est dans le même bateau et qu'en fait ça n'existe pas, mais même le plus grand, Elon Musk, Zuckerberg et tout, ils ont tous vraiment des problèmes, surtout en ce moment avec la crise, mais c'est toujours difficile. Et je trouve que désacraliser cette parole, la rendre un peu libre, ça fait vraiment du bien et ça rebooste beaucoup en fait notre énergie. Et donc elle a fait ça, et en plus elle a vraiment à cœur qu'il y ait beaucoup de femmes dans ce réseau, même s'il y en a toujours pas assez, mais elle fait tout pour vraiment qu'il y ait des promos. Et donc elle, je la trouve magique, parce qu'elle a elle sert la cause de l'entrepreneuriat, et en plus elle a fait, du coup ça marche bien, c'est une boîte, elle l'a transformée en boîte et tout, elle en a fait un truc qui investit aussi, enfin elle a réussi à rendre son business super pérenne et hyper scalable. Au début il y avait 50 personnes, maintenant il y a 450, et donc voilà, donc elle je l'adore, et puis elle a une énergie incroyable. Donc c'est plutôt des femmes comme ça, tu vois, un peu à impact que ouais. Je trouve exceptionnel.
Et on arrive à la fin de cet entretien. Ouais. J'ai une dernière question rituelle pour toi, qui est: quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer ?
Alors, je dirais ce que j'aime en fait dans ma vie d'entrepreneur, et ce que je trouve très précieux, c'est avoir un petit réseau de gens qui vous veulent du bien en fait, qui vous portent vraiment plus haut que ce que vous pourriez faire si vous étiez sans eux. C'est comme faire du vélo, on y arrive beaucoup mieux à monter une côte à deux qu'à monter une côte tout seul. Et donc, moi, je pense que le conseil, c'est se constituer un petit réseau d'alliés très proches, un petit cercle restreint. Mais ce n'est pas forcément des entrepreneurs, hein. Ça peut être votre gardienne, mais qui vous rebooste, à qui vous venez demander des conseils pour avoir justement un retour user hyper terrain. Ça peut être des gens vraiment qui vous veulent du bien et qui, quand vous leur parlez de votre projet, ont un peu des étoiles dans les yeux, vous écoutent vraiment avec une oreille attentive, vous écoutent, et après vous donnent un conseil. Et ça peut être 5 personnes ou ça peut être 15, mais en tout cas, identifier ces personnes-là et les garder dans son petit cercle, je trouve que c'est super précieux, ça fait une énorme différence. C'est ça.
Super. Et bon, on restera là-dessus. Merci beaucoup, Delphine, pour ton temps. À très bientôt.
Au revoir, à bientôt.
Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.